Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 11 août 2021. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Raïssi, Macron, premier dialogue. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, le leader de la République islamique d'Iran critique les pays étrangers pour ne pas avoir tenu leur promesse de fournir des vaccins à l'Iran. La République islamique d'Iran a toujours été préoccupée par les problèmes de l'Irak et la sécurité régionale, déclaration du président Raïssi. Et puis l'OMS demande à 20 personnes puissantes d'intervenir pour mettre fin à l'inégalité honteuse vaccinale. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique critique les pays étrangers pour ne pas avoir tenu leur promesse de fournir des vaccins à l'Iran. Le leader de la République islamique d'Iran a affirmé que la pandémie de coronavirus est le principal problème auquel le pays est confronté. À mon avis, la pandémie de coronavirus est aujourd'hui la question la plus importante à laquelle se voit confronté le pays. Il s'agit d'une question d'urgence qui doit être suivie avec une grande attention. Évidemment, les infections et les décès sont très douloureux. Il est facile de l'évoquer par les mots, mais en fait, quand 500 familles tombent en deuil en un seul jour, ce n'est pas une petite affaire. Ou encore quand des dizaines de milliers de personnes sont contaminées en un seul jour, a-t-il déploré. L'ayatollah Sayyed Ali Khamenei a exhorté les autorités à fournir des vaccins à la fois par le biais des importations et de la production nationale. Il a également critiqué certains pays étrangers pour ne pas avoir tenu leur promesse de fournir des vaccins aux Iraniens. L'ayatollah Khamenei a averti que le personnel de santé du pays est aux prises avec une forte pression au milieu d'une forte augmentation des cas et des décès. Le leader a également exhorté tous les citoyens iraniens à respecter les protocoles de santé afin de faire face à la crise. Le président iranien Ebrahim Raïssi a réitéré que l'intervention étrangère dans la région demeure source de tensions et constitue une menace pesant sur la paix et la sécurité régionale et internationale. Lors d'une rencontre avec le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, mardi 11 août à Téhéran, le nouveau président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré que la coopération régionale est une condition préalable à une sécurité et une paix durable. Le président iranien Ebrahim Raïssi a également déclaré que la République islamique d'Iran a toujours été préoccupée par les problèmes auxquels est confronté l'Irak et attend avec impatience de les voir réglés. Le président iranien a également remercié Fouad Hussein pour l'invitation faite par Bagdad à l'Iran pour assister à un sommet régional prévu plus tard ce mois-ci. Pour sa part, le ministre irakien des Affaires étrangères a déclaré qu'une sécurité durable ne peut être établie dans la région qu'avec l'aide de Téhéran et de Bagdad. Un haut responsable de la sécurité iranien rencontre également le ministre irakien des Affaires étrangères, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d'Iran, Ali Shamkhani, a rencontré mardi après-midi le ministre irakien des Affaires étrangères en visite à Téhéran. Ali Shamkhani a déclaré à cette occasion que la République islamique suit attentivement les actions suspectes des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Israël dans la région. De telles mesures visent à créer le chaos et la confusion parmi les pays du Golfe Persique, a-t-il prévenu, avant de souligner que Téhéran est prêt à neutraliser tout complot visant à déstabiliser la région. Avant de rencontrer le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Fouad Hussein s'était entretenu avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Hussein est arrivé à Téhéran mardi matin pour rencontrer des responsables iraniens et transmettre l'invitation du premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi au président iranien pour assister à un sommet des pays voisins à Bagdad. Les talibans se sont emparés d'une 9e capitale provinciale en Afghanistan en moins d'une semaine alors que le groupe poursuit une offensive rapide pour envahir le pays. Les autorités locales disent que les talibans contrôlent désormais Faziabad dans le nord-est après de violents combats qui les ont opposés aux forces gouvernementales ces derniers jours. Le groupe semble avoir encore renforcé son emprise sur le nord de l'Afghanistan avec la prise de la capitale de la province de Badakhshan. Ce gain est intervenu quelques heures après que les talibans ont pris la capitale de la province de Baghlan et celle de la province frontalière de Farah à l'ouest du pays. Les talibans se sont emparés des dizaines de quartiers et de postes frontaliers ces dernières semaines et se battent désormais pour plusieurs villes clés. Ils ont intensifié leur offensive après le retrait des forces étrangères dirigées par les États-Unis. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a appelé à mettre fin à la distribution honteuse des vaccins COVID-19 dans le monde. L'Agence de santé des Nations unies a exhorté mardi les 20 dirigeants qui ont le pouvoir de renverser le déséquilibre mondial honteux en matière d'accès aux vaccins COVID-19 à intervenir pour inverser la tendance avant octobre. Elles sont à la tête des grandes entreprises qui s'occupent de cela, elles sont à la tête des pays qui achètent la plupart des vaccins dans le monde et elles sont à la tête des pays qui les produisent. Nous avons besoin que ces 20 personnes disent « Nous allons résoudre ce problème d'ici la fin du mois de septembre. Nous allons faire en sorte que 10% de la population de chaque pays soit vaccinée », a déclaré ce responsable de l'OMS. Jusqu'à présent, près de 4,5 milliards de doses du vaccin contre le coronavirus ont été administrées dans le monde. Dans les pays à revenus élevés, 104 doses ont été injectées pour 100 personnes. Dans les 29 pays aux revenus les plus faibles, seules 2 doses ont été administrées pour 100 personnes. L'OMS souhaite que chaque pays ait vacciné au moins 10% de sa population d'ici à la fin septembre, au moins 40% d'ici à la fin de l'année et 70% d'ici à la fin mi-2022. Un tribunal chinois a condamné un homme d'affaires canadien à 11 ans de prison pour espionnage. La déclaration d'un tribunal de Dandong a déclaré que l'homme d'affaires canadien, un certain Michael Spavor, avait été condamné pour espionnage et vol de secrets d'État avant de les fournir illégalement à d'autres pays. Michael Spavor a été arrêté en 2018, quelques jours après que le Canada a arrêté le directeur financier du géant des télécommunications Huawei, Meng Wanzhou, dans le cadre d'une demande d'extradition des États-Unis. Le verdict de Spavor intervient une semaine après le début de nouvelles audiences dans l'affaire Meng à Vancouver, alors que ses avocats se battent pour empêcher son extradition vers les États-Unis. Mardi, un autre tribunal chinois a rejeté l'appel d'un Canadien condamné à mort pour trafic de drogue. Ottawa a condamné les verdicts, les qualifiant d'injustes et de politiquement motivés. La Corée du Nord affirme que son voisin, le Sud, et les États-Unis risquent une énorme crise de sécurité en choisissant d'intensifier les tensions. Les médias d'État nord-coréens, citant un haut responsable du Parti des travailleurs, ont écrit que Séoul et Washington avaient répondu à la bonne volonté de Pyongyang par des actes hostiles. L'influente sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a fustigé mardi l'attitude perfide de Séoul à propos des exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, avertissant ces deux pays qu'ils allaient au-devant de lourdes menaces sécuritaires. Selon l'agence de presse Yonhap, la Corée du Sud et les États-Unis ont commencé ce mardi des exercices préliminaires et devraient procéder la semaine prochaine à des entraînements plus importants, simulés par ordinateur, en dépit de l'avertissement de la Corée du Nord, selon laquelle ces exercices entraveraient les progrès des relations intercoréennes. Ces manœuvres constituent une action indésirable et autodestructrice, menaçant le peuple nord-coréen et accroissant les tensions dans la péninsule coréenne, a prévenu Kim Yo-jong dans un communiqué repris par l'agence de presse officielle nord-coréenne. Et il a également qualifié de traitement perfide la décision de la Corée du Sud de procéder à ces exercices peu après le rétablissement d'une ligne directe entre Pyongyang et Séoul dans le but d'apaiser les tensions. Mardi, la Corée du Nord a cessé de répondre aux appels de routine sur les lignes directes. Les États-Unis ont plus de 28 000 soldats en Corée du Sud. Pyongyang a toujours critiqué les exercices militaires conjoints à Washington-Séoul et les a considérés comme une menace. Enfin, les incendies de forêt en Algérie ont tué 42 personnes, dont 17 civils et 25 soldats qui avaient été déployés pour aider à éteindre un enfer de feu. Le ministère algérien de la Défense a déclaré que davantage de soldats avaient été grièvement blessés par des brûlures. Des dizaines d'incendies ont ravagé les forêts à 100 km à l'est de la capitale Alger, dans la région Kabyle, où se trouvent quelques villages difficiles d'accès. Les autorités ont déclaré que le déclenchement simultané de nombreux incendies au même endroit suggère qu'ils ont été provoqués par l'allumage des flammes et sont donc d'origine criminelle. Ces incendies sont propagés par un vent fort qui complique la tâche des secouristes. Ils surviennent en outre au milieu d'un été caniculaire marqué par une raréfaction de l'eau. La semaine dernière, un contrôleur de l'atmosphère de l'Union européenne a déclaré que la Méditerranée est devenue un point chaud de feu, de forêt, alors que des incendies massifs, intensifiés par les vagues de chaleur, ont englouti les forêts en Turquie et en Grèce. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous, merci. Avec la France, on aspire à avoir de bonnes relations, mais tout dialogue nucléaire devrait assurer nos droits. Intérêt et le respect mutuel, voici les mots d'ordre du président Raïssi, qui s'est dit favorable au développement des relations entre l'Iran et la France, notamment dans les domaines économiques et commerciaux, déclarant que les droits du peuple iranien doivent être garantis dans toute négociation. Lors d'un entretien téléphonique d'une heure ce lundi 9 août avec son homologue français Emmanuel Macron, le président français Ibrahim Raïssi a évoqué les violations répétitives et flagrantes des États-Unis et le non-respect du trio européen de leurs engagements dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien en déclarant « En imposant de nouvelles sanctions, les Américains ont ouvertement violé leurs engagements » et lier les nouvelles sanctions au secteur humanitaire. Soulignant que les États-Unis et les Européens doivent remplir leurs obligations au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, Le président iranien a déclaré « Dans toute négociation, les droits du peuple iranien doivent être respectés et les intérêts de notre nation doivent être garantis. » Raïsi a affirmé « La République islamique est très sérieuse quant à la sécurité au maintien de la dissuasion dans la région du Golfe Persique et la mer d'Oman et s'occupera des facteurs qui nuisent à la sécurité. » Concernant le Liban, il a souligné « Nous soutenons toute action visant à la stabilité, la sécurité et à l'amélioration de la situation économique du peuple libanais. » Le président français a quant à lui félicité son homologue pour son investiture et lui a souhaité du succès. L'Iran et la France peuvent jouer un rôle dans l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région grâce à leur coopération. Évoquant le retrait unilatéral des États-Unis du plan global d'action commun PGAC, l'accord nucléaire de 2015 et la suspension de la mise en œuvre du PGAC, Emmanuel Macron a déclaré « Nous cherchons une solution à ce problème et nous espérons que les négociations reprendront. » En allusion à la question de la sécurité maritime, le président français a précisé « Tout d'abord, nous devons créer un cadre de stabilité et faire en sorte qu'il y ait une stabilité dans diverses questions, dont l'état des mers. » Macron a déclaré que la France a toujours essayé d'offrir une solution pour la stabilité au Liban et a exprimé l'espoir qu'avec l'Iran, le terrain sera préparé pour la stabilité et la résolution des problèmes du pays. Enfin, le président français a appelé à la poursuite des pourparlers entre Téhéran et Paris dans le but d'approfondir les relations bilatérales.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de débat. Si vous avez suivi l'actualité de concernant le Liban, vous en êtes rendu compte que ces derniers jours, le régime israélien a mené des agressions à plusieurs reprises contre le Liban, contre le territoire libanais. Il y a eu tout d'abord cette réaction du côté du président libanais Michel Aoun, qui a dit que voilà, ces agressions israéliennes constituent une violation flagrante de la souveraineté des Libanais et également une violation flagrante du droit international. Mais la riposte de la résistance libanaise, le Hezbollah, est tombée aujourd'hui même. Le Hezbollah de Libanais a visé des cibles israéliennes dans les fermes de Shebaad, le Hezbollah libanais, qui a en fait publié un communiqué dans lequel il a revendiqué la responsabilité de ses tirs de roquettes et de missiles. Le régime israélien, très particulièrement le colonie israélienne, se trouve dans un état panique. C'est de ce sujet qu'on va vous parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités, d'autant plus que la résistance palestinienne, le Hamas également, a réagi à cette riposte du Hezbollah libanais. Le Hamas qui a salué la riposte de la résistance libanaise et le bombardement des cibles israéliennes par le Hezbollah en réponse aux crimes et aux agressions israéliennes contre le territoire libanais. On va vous proposer maintenant un court reportage, on reviendra tout de suite après.
Comparé à ce triple tir de missile qui a visé ce mercredi de façon parfaitement éclair Kiryat Shmona en Galilée occupée, provoquant un incendie non loin de la principale base de l'armée sioniste qui venait d'y tenir un exercice géant anti-Hezbollah, incendie que la presse israélienne a totalement minimisé, mais qui a tout de même fait un bilan officiel de 4 blessés, avec en toile de fond une panique pas possible dans les rangs des colons qui couraient dans les 4 sens se mettre à l'abri. Les raids aériens de ce jeudi matin qu'a lancé Israël en toute précipitation contre le sud du Liban constituent un méga ratage. Certes, Avishai Adrae, porte-parole d'une armée israélienne qui, totalement paniquée, a procédé mercredi et dans un premier temps à des tirs aveugles d'artillerie visant les terrains vagues dans le sud du Liban, s'en est bien vanté ce matin en tweetant « Nos raids contre le Liban se poursuivent et iront s'amplifier pour contrer des attaques terroristes, mais même les Israéliens se moquent bien de cette assertion ». L'analyste Yediot Aharonot, allant même jusqu'à dénoncer un trio Bennett et Koshavi-Kantz qui fait une tempête dans un verre d'eau et qui ne fait que frapper des terrains vagues quelque part dans la banlieue de la ville d'Al-Mahmoudia, uniquement pour dire que tout va bien dans les meilleurs du monde et que la situation est sous contrôle. Or, tout échappe au contrôle. À peine quelques heures avant que le tir de roquettes intelligentes contre la Galilée n'ait lieu, les sources militaires syriennes ont fait état d'une opération Syrie-Hezbollah-Iran, parfaitement inouïe, à laquelle le président Assad a assisté lui-même. Il s'agissait en effet de prouver à Israël en premier et aux Américains en second lieu que leur agissement destiné à se réaccaparer du ciel du Levant et de l'Iran sont inutiles, et que l'US Air Force et l'US Army, une fois réimplantés en Jordanie, ne sauraient reprendre le terrain perdu. Aviapro, lui, tient à y porter une précision en affirmant qu'Alep n'est pas sa zone d'opération favorite et que ce coût d'interception et de destruction d'un drone, dont le coût est de 200 millions de dollars, c'est l'Iran et le Hezbollah et l'armée syrienne qui sont derrière, on le croit à la lettre.
Merci, merci infiniment d'avoir choisi cette émission auprès de le débat. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités déjà avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Devollet. Maître Devollet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Merci beaucoup. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Devollet, c'est un spécialiste français des questions internationales, un analyste politique qui est avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour, M. Neurostine. Bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Devollet de Damas.
Monsieur Dortiguier, je viens de lancer le sujet, ce qui se passe actuellement entre le régime israélien et la résistance libanaise. La résistance libanaise qui a en fait publié un communiqué. Et ce que qu'on en fait tire de ce communiqué du Hezbollah libanais, c'est le message suivant. Tir contre le tir, cible contre la cible, Monsieur Dortiguier.
Eh bien, naturellement, ces échanges de tirs, disons, entre le régime israélien et puis la résistance générale, la résistance du Hezbollah en premier, sont d'abord la marque évidente de la faiblesse de la stratégie israélienne, qui naturellement, à ces temps, nous semble avoir entrepris cette attaque pour des raisons vraiment de politique. C'est votre communiqué, votre commentaire a parlé justement de ce groupe autour de Bennett, de Gantz, etc., de Gantz. Et en effet, ils ont, disons, peut-être voulu montrer, disons, là, une certaine autorité sur le plan intérieur, et ils ont utilisé peut-être cette offensive entre guillemets sur le Liban qui a échoué naturellement, mais ce que nous voulons mettre aussi en relief, c'est cette déclaration très importante à laquelle vous avez fait allusion du président Aoun, disant que les Israéliens pouvaient viser, disons, une sorte d'intensification de la lutte contre le Liban. Je crois que c'est le Liban lui-même qui est touché, qui est assailli après avoir été secoué économiquement, financièrement, et que le président Aoud a d'ailleurs quitté la date de 2006. Mais il faut remonter jusqu'à 2006 pour voir une telle opération qui vise des villages libanais. Il n'a pas dit qu'il avait touché des villages libanais, proprement dit, sauf ce qui a été vu dans cette localité. Mais que ils ont les, je pense que l'état-major libanais a bien compris qu'il s'agit là, disons, d'une préparation aussi, certainement, d'une préparation du régime israélien à des coups portés contre ce que le régime israélien estime le maillon le plus faible aujourd'hui de l'axe de la résistance. Il se trompe d'ailleurs, mais il le croit, c'est-à-dire le Liban, à cause justement de l'état économique, l'état financier dans lequel se trouve le pays. Je crois que les Israéliens confondent l'état terrible du Liban aujourd'hui avec la volonté de résistance. Au contraire, il semble, nous en sommes sûrs, que c'est cette attaque économique et financière contre le Liban qui ne fait qu'accroître justement la volonté de participation du Liban à l'axe de la résistance. En ce sens, nous sommes persuadés, au vu de ces événements, que si le régime israélien ne veut pas désarmer, la résistance elle-même ne désarme pas.
Maître de Tevelet, et vous, comment évaluez-vous cette riposte du Hezbollah libanais, de la résistance libanaise aux agressions israéliennes?
Écoutez, tout d'abord, il faut regarder les choses en face. Les Israéliens auraient mieux fait de rester, si je puis dire, stoïques, eu égard à ces allégations de roquettes ayant été tirées sur leur territoire. Au niveau de la communication, les choses eût été perçues différemment, surtout quand on entend l'état-major sioniste se vanter de leur supériorité militaire contre toute agression, je cite. Et en fait, c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que, indépendamment de l'origine de ces tirs de roquettes qui auraient ensuite justifié les représailles de l'aviation israélienne, no less, se faisant donc violent, encore une fois, l'espace aérien libanais, le Liban qui traverse, qui plus est, une situation extrêmement difficile. Mais là où on pourrait penser que les Israéliens tirent profit de cette situation, de cette vulnérabilité d'apparence, en tout cas, la résistance libanaise s'est empressée d'envoyer un message très clair que toute tentative d'exploitation de la situation au Liban par l'armée israélienne sera punie immédiatement. J'ajouterai à cela que cette représaille de la résistance libanaise a été combinée, coordonnée avec une représaille de Damas, de la direction à Damas, qui a effectué des tirs de semonce, ou en tout cas des tirs d'artillerie, dans le plateau du Golan occupé. Ce qui envoie un message très clair à Tel Aviv que cette stratégie de la résistance qui maintenant consiste à coordonner ces représailles de telle sorte que les fronts simultanément peuvent s'enflammer d'un coup, n'est pas de la rhétorique, mais est quelque chose qui est parfaitement réel et que l'état-major sioniste devrait définitivement garder à l'esprit, nonobstant la situation en interne en Palestine occupée, qui, à mon avis, a aussi quelque chose à voir avec cette espèce de fébrilité à laquelle nous assistons de la part de Tel Aviv.
Maître de Vaudet, vous êtes à Damas. Vous avez dit que voilà, il y a eu une coordination entre le Hamas et le Hezbollah libanais pour cette riposte aux agressions israéliennes. Est-ce qu'il y a eu, d'après vous, également une coordination avec le gouvernement syrien au niveau de Damas?
Écoutez, il est difficile d'imaginer que la coïncidence entre la représaille provoquée par la résistance libanaise et les tirs provoqués en provenance de la Syrie sur son territoire qui perdure, en tout cas occupé, qui est le plateau du Golan, soit une coïncidence. Moi, je n'y crois pas du tout. Cela correspond exactement à une réponse mesurée, ciblée et symétrique dans le temps par rapport à l'agression israélienne toute récente. Et dans ce contexte-là, il est parfaitement, difficile à croire qu'il n'y aurait pas eu une coordination entre les différentes factions de la résistance. C'est évident. La situation régionale est extrêmement tendue actuellement. Tous les théâtres d'opération sont en état d'alerte maximale. Et dans ce contexte-là, il est important de souligner que la résistance est prête à faire face à toute provocation, quelle que soit l'origine et quel que soit le théâtre d'opération. C'était important de le préciser, parce qu'on aurait pu penser, avec les événements récents, effectivement, que l'opinion publique internationale serait amenée à penser que la résistance était faible. Il n'en est rien, la résistance n'est pas faible du tout, elle est prête à plus que jamais à défendre ses intérêts. Et il ne faut pas croire que la situation économique du Liban, pour ne citer qu'elle, résume en quoi que ce soit la capacité militaire de la résistance, non seulement libanaise, mais de la résistance dans son ensemble, à monter des opérations de représailles lorsque les circonstances le dictent.
Monsieur Dorsiguet, est-ce également de votre avis, il s'agit d'une réponse mesurée, d'une réponse coordonnée, bien calculée, une réponse en fait fournie par de différentes factions de la résistance, comme l'a dit Arnaud de Vollet?
Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec cette observation. Il s'agit là d'une résistance tout à fait mesurée, symétrique, etc. C'est tout à fait vrai. Et c'est justement, disons, ce qui contraste avec cette offensive. On peut dire du régime sioniste, oui, je dirais, pour être plus précis, que c'est véritablement le milieu autour de Gantz et de ceux qui viennent d'accéder au pouvoir avec Bennett. Je crois qu'il s'agit là de la part des Israéliens, non pas d'une opération mûrie d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue politique, c'est-à-dire que il y a une sorte de, comment vous dire, de rodomontade, comment dire en français, c'est-à-dire de vouloir, c'est un effet, disons, sur l'opinion publique israélienne. Je crois du reste que le journal qu'a cité votre présentatrice et qui parle d'une agitation dans un verre d'eau, quelque chose comme ça, le journal sioniste, bien sûr, pour montrer ce qui a été provoqué par cette offensive, enfin cette opération militaire israélienne s'est soldée en retour justement par quand même une réponse ciblée, mesurée, c'était réellement, mais quand même efficace et visible, voyez-vous, qui montre justement que ce bluff-là, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, véritablement n'est qu'à usage intérieur, je dirais à usage intérieur plus que véritablement marquant une stratégie possible. Les Israéliens savent très bien, les états-majors, je veux dire les militaires, connaissent très bien la coordination dont a parlé Maître de Velay. Et je dirais que donc, il y a, c'est malheureux de dire ceci, évidemment, à travers des opérations militaires, mais il y a une part de bluff, disons, de la part de la nouvelle équipe sioniste contre une bluff à destination de sa propre opinion publique, laquelle, à notre avis, ne s'est pas trompée.
Maître de Vollet, s'agissant de la nouvelle équipe sioniste à laquelle fait allusion Pierre Dorsiguet, toujours à propos en fait de cette réponse du Hezbollah libanais, les médias israéliens ont indiqué tout à l'heure que voilà, les commandants de l'armée israélienne et les responsables politiques du pays sont en cours de consultation et il se penche à ne pas en fait agir de manière à ce que leur réaction mène à une escalade avec le Hezbollah libanais. Maître de Vollet, les responsables israéliens se trouvent dans un état de panique et de désorientation totale, n'est-ce pas?
À tout le moins, c'est un signe de fébrilité intense. On a l'impression que cette nouvelle équipe, c'est un petit peu le leitmotiv, cherche un petit peu ses repères, ses marques, ne semble pas trop savoir quoi faire de la situation militaire telle qu'elle existe sur tous les fronts. Mais en même temps, elle est consciente qu'il ne faut surtout pas répéter les erreurs qui ont mené à leur défaite lors de l'opération de l'épée d'Al-Houth. En même temps, je pense qu'il y a un gros problème interne à l'entité sioniste. Ça ne semble peut-être pas avoir de rapport direct avec le sujet d'aujourd'hui, mais La crise sanitaire, visiblement, telle qu'elle est gérée, semble avoir des ratés. Et je pense qu'il est question maintenant d'un peut-être un nouveau confinement ou en tout cas d'un rétablissement de ce pass vert, de ce pass sanitaire. Donc la nouvelle équipe qui n'a pas d'expérience en tant que telle, qui est plutôt une coalition composée de briques et de brocs, se retrouve tout d'un coup, après avoir fait tout le nécessaire possible autour d'un seul point de consensus, qui était celui de faire opposition à la reconduite de Netanyahou et de son équipe à lui, visiblement, semble être dans une situation où ils doivent gérer une situation sans précédent, sans avoir forcément l'expérience pour le faire. Et c'est dans ce contexte-là, effectivement, je pense que ils se sont dit que pourquoi pas, on va faire diversion et on va essayer de recaler, si je puis dire, le focus sur la préservation de l'intégrité de notre territoire pour montrer à la population que nous veillons au grain et que nous, leurs intérêts sont les nôtres. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus il se développe un fossé entre les élites sionistes et leur population. Et ça, c'est une situation qu'il va falloir garder à l'œil parce que ça peut porter sur une situation ensuite fuite en avant pour les élites sionistes qui leur ferait faire plus d'erreurs encore.
Monsieur Dortiguet, le temps de l'immunité de l'armée israélienne, du régime israélien, pour mieux dire, le temps de ce mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne est-elle bel et bien révolue?
Oui, en effet, on peut dire que le temps est passé, le temps est révolu, forbye, comme on dit en allemand, que cette armée, disons, pouvait porter des coups et puis ensuite tenir, disons, son pays derrière un bouclier, etc. Tout ceci, ça a été une réalité à un moment donné, bien sûr, mais c'est un mythe, bien sûr, qui a été détruit par justement la durée même de l'agression et de l'agressivité sioniste. C'est elle qui a renforcé justement ses adversaires et les a amenés justement à une coordination tant sur le plan intérieur, à l'intérieur des frontières, qu'à l'extérieur des frontières. N'oublions pas que l'occupation, la formation de cet État dans des conditions que l'on sait touche quand même en premier un ancien grand pays qu'on appelle la Syrie, dont la Palestine étant, que je dis quelquefois, c'est le congrès de Jéricho des Palestiniens qui l'a dit en 1948, une partie de la Syrie méridionale. Voyez-vous, c'est le même pays, comme le Liban, ce sont des États différents, bien sûr, mais ce serait quand même le même peuple. Et donc, ce que les Israéliens ont sous-estimé toujours, c'est qu'ils n'ont vu que leurs propres victimes à l'intérieur de leur territoire, ou tout au moins aux alentours de leur territoire, dans les camps de réfugiés, ils n'ont pas vu qu'ils avaient affaire à un peuple complet, un peuple déterminé, dont les Palestiniens forment une partie. Ça, je crois que cette réalité, disons, l'a emporté. J'ajouterai à peine un détail pour parler de cet irréalisme aujourd'hui israélien, c'est le fait que dans cette affaire dont nous parlons, Monsieur Gantz, par exemple, s'en soit pris à la finule, ce qui est absolument absurde, c'est-à-dire à cette force justement d'interposition. Et il n'avait absolument aucun dossier, disons, à produire. Mais ce sont des paroles en l'air. Je crois que on peut espérer. Ce n'est pas une question d'espoir. On ne peut que déduire de la situation actuelle, logiquement, qu'on assiste à un effritement, disons, de cette certitude impériale, cette certitude, disons, orgueilleuse qu'avaient les Israéliens au départ. Et ils sont obligés, évidemment, vivant dans des circonstances de l'Orient, évidemment, à se plier aux réalités, c'est-à-dire au moins à reconnaître qu'ils ont à côté d'eux un peuple, n'est-ce pas, auquel ils doivent des comptes, et même ils doivent également se tenir dans des relations de civilisés, si je puis dire, avec les peuples alentours. Je crois que le temps, va dans ce sens-là.
Merci beaucoup, Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Maître Arnaud Devollet, juriste français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
Zandalan, en raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran, appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature. Les contrats Pfizer et leurs clauses surprenantes. Extrêmement contraignants pour les États qui les ont signés, les contrats Pfizer semblent les avoir ligotés. Bien que les documents qui ont fuité soient en réalité des drafts du laboratoire, soient un brouillon, une version non finale, il y a fort à parier que les contrats y ressemblent comme deux gouttes d'eau. Pfizer s'est montré plutôt agressif en essayant de protéger les détails de leurs accords internationaux sur le vaccin COVID-19. Mais en voici une copie. Le document qui est ici épulché a été rendu public par l'Albanie en janvier 2021. Tout d'abord, on note que le coût de développement des contrats est très élevé et prend beaucoup de temps. Cycle de relecture juridique. Pfizer, comme toutes les entreprises, développe un modèle d'accord standardisé et utilise ces accords avec des ajustements relativement mineurs dans différents pays. Ces accords sont supposés être confidentiels. Mais comme vous êtes sur le point de le voir, il y a une bonne raison pour laquelle Pfizer se battait pour en cacher les détails. Pour commencer, parlons du produit. L'accord couvre non seulement la fabrication des vaccins contre le SARS-CoV-2 et ses mutations, mais également tout dispositif, technologie ou produit utilisé pour l'administration ou pour améliorer l'utilisation ou l'effet d'un tel vaccin. Si vous vous demandiez pourquoi l'ivermectine a été empêchée, eh bien c'est simplement parce que l'accord conclu avec Pfizer ne leur permet pas d'échapper à leur contrat, qui stipule que même si un médicament efficace était trouvé pour traiter le COVID-19, le contrat ne peut pas être annulé. Difficile donc de jouer sur deux tableaux. Vous imaginez les millions de doses payées et vouées à la destruction si un traitement efficace et peu cher devait exister. Approvisionnement en vaccins. Pfizer n'assumera aucune responsabilité en cas de non-livraison des doses conformément aux dates de livraison estimées. Et un tel manquement ne donnera à l'acheteur aucun droit d'annuler les commandes pour toute quantité de produits. Pfizer décidera des ajustements nécessaires du nombre de doses contractuelles et du calendrier de livraison dû à l'acheteur sur la base de principes indéterminés par Pfizer. L'acheteur sera dans l'obligation d'accepter toute révision. Pour être clair, l'acheteur renonce à tous les droits et recours qu'il peut avoir en vertu de la loi et donc subira des conséquences de produits défectueux et ou manquants si cela venait à arriver. La seule façon d'obtenir un rappel est de prouver un défaut de fabrication. Pour plus de clarté, l'acheteur n'aura pas le droit de rejeter un produit sur la base de réclamation de service, à moins qu'un produit ne soit matériellement conforme aux spécifications ou aux standards de fabrication. Notons toutefois que c'est une preuve difficile à apporter puisque le procédé de fabrication n'est même pas encore stabilisé. Étudions maintenant ce qui pourrait intéresser les avocats. L'acheteur reconnaît que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont actuellement pas connus et qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont actuellement pas connus. Par ailleurs, il existe des clauses concernant la possibilité de résiliation, mais en tout état de cause, l'acheteur n'apprécie rien qui puisse être considéré comme une violation substantielle, même en cas d'inefficacité des vaccins ou en cas d'effet secondaire grave mortel. Tandis que Pfizer peut facilement le faire s'il n'obtient pas son argent ou s'il le juge nécessaire. En d'autres termes, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. L'acheteur accepte par la présente d'indemniser, de défendre et d'assumer toute responsabilité incombant à Pfizer et ses filiales suite à des poursuites, réclamations, actions en justice, pertes, dommages, responsabilités, pénalités, amendes, coûts et dépenses. Le monde à l'envers, vous dites.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est actif essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, le rôle axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
Thank you.